Vous êtes sur RTL.
Le grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous et merci pour votre fidélité. Bonjour Geoffroy Roux de Bézieux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour votre premier grand jury. À mes côtés aujourd'hui pour vous interroger, Amélie Carouère de LCI. Bonjour Amélie.
Bonjour.
Et Guillaume Roquette du Figaro. Bonjour Guillaume. Vous pouvez toujours bien sûr réagir en direct pendant cette émission, hashtag Le Grand Jury. Et Marie-Pierre Haddad viendra nous rejoindre en fin d'émission pour les poser à nos invités. Alors Geoffroy Roux de Bézieux, vous êtes à la tête du MEDEF, patron des patrons, comme on dit, depuis maintenant 2 ans. Et à ce titre, vous allez devoir vous confronter à ce qu'on nous annonce comme la pire crise économique depuis 1929. Alors, à quelques heures d'une intervention très attendue du chef de l'État, quelles sont vos doléances? Vous nous le direz dans cette émission. Et en contrepartie, que peut faire l'entreprise pour relancer la machine économique? Êtes-vous prêt, par exemple, à un geste sur les salaires? Croyez-vous à une relance par la consommation? Vos dernières déclarations sur le temps de travail qu'il faudrait augmenter ou la suppression de RTT ont déclenché la polémique, même si vous vous êtes ensuite ravisé. Au risque de vous faire apparaître en maître des forges, mais surtout de compliquer les relations avec les syndicats, même les plus réformistes, comme la CFDT. Et alors même qu'Emmanuel Macron envisagerait de s'appuyer sur les partenaires sociaux pour tenter de mettre en place une grande réforme de flexi-sécurité sur le modèle allemand, sauf que le consensus semble impossible dans ce pays. Nous en parlerons, vous nous direz si les choses sont possibles, puisque vous conversez dorénavant avec la CFDT de manière assez régulière et ouverte. Mais pour l'instant, venons-en d'abord au confinement, à la sortie du confinement. Et la première question vous est posée par Amélie Carouère.
Donc bonjour. Bonjour. La question du moment, faut-il déconfiner plus vite sans attendre le 22 juin?
Alors bon, je ne suis pas médecin, ni expert, et je ne suis pas devenu en 3 mois, comme d'autres. Mais moi je lis ce qu'a déclaré le professeur Delfraissy dimanche dernier. Donc s'il se confirme que, je cite ces mots, la pandémie ou ses contrôles, oui, il faut accélérer le déconfinement parce que chaque jour, chaque semaine, coûte à l'économie et que le plus vite on déconfinera, plus vite on repartira travailler, à consommer, à voyager, plus vite on sauvera l'emploi.
C'est-à-dire concrètement
Concrètement, les restaurants qui sont quand même la priorité en Ile-de-France, ça devait être le 22, enfin, sous réserve de confirmation, est-ce qu'on peut aller plus vite? Bon, là, tout fait, moi j'étais dîner dans un restaurant, vous voyez bien que le truc des terrasses, ça tient pas longtemps. On a tous été en bordure de terrasse,
ouais,
un peu à l'intérieur,
bah oui, alors, oui, on les comprend. Alors, est-ce qu'il faut dès mardi voire dès demain, ouvrir
encore
les restaurants.
Fois, si le conseil scientifique, dont je ne fais pas partie et auquel je me range, moi, j'ai pas la capacité, j'ai dit que la pandémie est sous contrôle, oui, je pense qu'il faut le faire. Parce que il s'agit pas, vous voyez, de donner une faveur à qui que ce soit, mais les restaurateurs, ils sont en train de crever. Et en Ile-de-France, évidemment, parce qu'ils ont leurs charges, ils ont leurs loyers, etc.
On a trop attendu.
Non, alors, si vous voulez, moi, je veux pas rentrer dans cette polémique-là. Encore une fois, on fera, j'allais dire, les comptes. Enfin, c'est pas le bon mot, mais. À la fin, est-ce qu'on a trop confiné, pas assez confiné par rapport aux voisins? Attendons de voir comment tout ça se comptera en nombre de morts par habitant, etc., etc. Pour le moment, moi, je suis, entre guillemets, derrière le gouvernement, parce que je suis citoyen de ce pays. Simplement, j'entends le conseil scientifique qui dit, ça y est, la pandémie est sous contrôle, il y a encore des clusters, alors allons-y.
Alors, dès demain, non, mais soyons clairs, dès demain, la réouverture alors, complète des restaurants,
si ou dans les 48 heures. Dans la semaine, en tout cas.
Dans la semaine.
Je veux dire, il ne faut pas se tromper, chaque jour compte.
Alors,
chaque jour compte.
Mais comme vous dites, justement. Oui, vous dites, je ne veux pas porter de jugement, mais quand même, il y a beaucoup de Français, de patrons qui considèrent que le gouvernement est trop prudent, peut-être un peu peureux. C'est pas votre point de vue?
Non, parce que, encore une fois, c'est facile de dire après coup, on aurait dû moins confiner. Alors, l'Allemagne, par exemple, a moins confiné, mais ils n'ont pas eu le même cluster que nous dans le Grand Est au départ. Donc, je pense qu'il y aura des commissions d'enquête, que je trouve assez légitimes, pour faire un bilan. Et d'ailleurs, j'aime pas tellement le mot commission d'enquête. C'est plutôt comment ça a été géré. On avait un problème, vous le savez, de masques, enfin, un problème de pénurie de masques. Donc, on n'avait pas exactement les mêmes moyens. On a un problème de lits en réanimation. Donc, moi, je ne porte pas de jugement. Simplement, les faits aujourd'hui.
N'a pas tétanisé nos politiques.
Écoutez, je ne suis pas dans la tête d'Edouard Philippe ou de.
Mais vous leur parlez.
En tout cas, maintenant qu'on en est là, que le Conseil scientifique dit la pandémie sous contrôle, allons-y. Mais... Et je le dis aux Français aussi, parce qu'il y a ça aussi. reconsommer, revoyager, réserver vos vacances d'été, parce que tout ça, c'est un effort collectif pour sauver l'emploi.
On va parler des efforts collectifs, bien sûr, on a le temps de le faire, mais combien ça coûte à la France, si on essaie d'être concret, un jour de confinement supplémentaire?
Figurez-vous, j'ai posé la question à mes services il y a très longtemps. C'est très difficile à. Donc je ne sais pas vous répondre avec un chiffre.
Ça se compte en milliards.
Compte en milliards, bien sûr, puisque c'est des recettes fiscales qui viennent pas, c'est du chômage partiel qui continue, etc. Donc chaque jour compte. Je crois que c'est ça qu'il faut pas croire, si vous voulez, que il y a un petit côté, je le dis, sans polémique, morphine, si j'ose dire, avec tous ces systèmes d'aide. On a l'impression finalement que. Au fond, il ne se passe rien. Mais non, chaque jour, on s'endette. Chaque jour, on dépense de l'argent.
L'économie est sous perfusion.
Oui, mais bien sûr. Et il fallait le faire. Mais il faut sortir de la perfusion le plus vite possible.
Est-ce qu'il faut rouvrir les écoles complètement pour permettre aux parents de retourner?
Même réponse. Alors, vous allez me trouver un peu prudent, mais je ne suis pas scientifique ni médecin. Donc, là aussi, j'entends le professeur Dufassy qui dit « Allons-y ». Donc, effectivement, les écoles qui tournent à 25%, les crèches aussi, on oublie les crèches, mais c'est évidemment l'impendant, avec 10 enfants par crèche, ça crée du chômage partiel. Ça oblige les parents à rester à la maison, donc ils sont en chômage partiel, donc ils ne travaillent pas, donc on ne produit pas de richesse.
Mais vous dites que l'économie française est sous perfusion, un peu sous anesthésie, et vous dites aussi aux salariés « Réveillez-vous, il faut retourner travailler maintenant ».
Alors, on ne peut pas dire ça de manière générique, mais on a besoin des salariés, y compris dans certains cas en présentiel. On fera le point du télétravail dans une négociation qu'on a lancée. Mais au bémol des transports en commun, au bémol des salariés fragiles, qui évidemment sont plus à risque, il faut relancer l'économie. Relancer l'économie, ça passe par le travail, la consommation, l'ensemble des facteurs qui font un PIB.
Est-ce que vous allez jusqu'à dire que les Français n'en font pas assez pour accompagner la reprise? Et par exemple, il y a, c'est une musique qui monte, des représentants de patrons, des chefs d'entreprise qui disent qu'il faut revenir sur certains congés cet été. Vous appelez les salariés français à renoncer à certains congés?
Vous avez évoqué en introduction. Je ne me suis pas ravisé, monsieur Spartouche. J'ai éventuellement précisé ma pensée. Il y avait effectivement une polémique, mais moi j'ai dit simplement il faudra se poser la question. Oui. Sortie de confinement, du temps de travail, des RTT. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui? Dans plein d'entreprises, ça discute. Et c'est bien ça que j'avais en tête. Alors après, la droite a dit il faut faire 37 heures, payer 35, etc.
C'est ce que dit encore Bruno Retailleau dans le
journal du dimanche matin. Je ne suis pas d'accord sur ce point-là, parce qu'on ferait la même erreur que les 35 heures, c'est-à-dire considérer que l'économie, au fond, les formes d'organisation d'entreprise sont similaires. Il y a des entreprises qui ont besoin de travailler plus, et il y a des discussions sur une semaine de RTT cette année, travailler plus pour rattraper ce qui a été perdu. Mais il y a aussi d'autres entreprises où malheureusement il n'y a pas assez de demandes. Et là le problème c'est de réduire le temps de travail sans pénaliser les salariés.
Mais un jour férié en moins, il y a deux semaines, Jean-Dominique Sénard, le patron de Renault, était à votre place, il nous disait oui, pourquoi pas, il faut qu'il y ait un effort collectif, et là c'est au gouvernement de l'imposer. Est-ce que vous y êtes favorable?
Écoutez, ça se discute. On sait bien, c'est l'histoire du lundi de Pentecôte de, Jean-Pierre Raffarin. Oui, j'ai essayé de ne pas me tromper de Jean-Pierre Raffarin. Ça a créé de la richesse parce que travailler dans un pays, ça crée de la richesse. Mais ne faisons pas l'erreur d'imposer nationalement une mesure de type 35 heures. Et pardon, vous avez fait allusion à la CFDT. Je vous signale quand même qu'on a signé une déclaration commune au milieu de la crise, qui incitait à la reprise du travail. Donc ne croyez pas que le dialogue social en France ne fonctionne pas.
Alors, on va en parler.
Pardonnez-moi, vous n'avez pas précisément répondu à ma question. Est-ce que vous estimez dans l'immédiat, par exemple pour cet été, que les Français se mobilisent assez pour la reprise? Est-ce que vous appelez les salariés à renoncer à certains de leurs congés?
J'appelle toutes les entreprises qui en ont besoin à ouvrir un dialogue sur le temps de travail, sur les autres conditions de la reprise, les protocoles sanitaires. Il y a eu 5500 accords signés de reprise du travail. C'est phénoménal, hein? Il n'y a jamais eu autant d'accords dans les entreprises que dans cette période-là. Donc c'est comme ça qu'on fait avancer les entreprises, avec les représentants syndicaux ou les représentants salariés quand il n'y a pas de représentants syndicaux. Et donc c'est dans les entreprises. Il y a un cas très emblématique, qui fait d'ailleurs un peu polémique, qui est l'entreprise de Richebourg. Maintenance aéronautique. Donc évidemment, maintenance aéronautique, pendant les prochains mois, il n'y a plus de travail. Les syndicats, en l'occurrence Force ouvrière, ont signé un accord où il y a, alors c'est pas du travail en l'occurrence, enfin c'est des indemnités de repas, je crois, qui ont été sacrifiées, en échange du maintien de l'emploi. Donc ce type de dialogue, il est très important. Et à l'inverse, je finis juste, c'est important, moi je n'accepte pas le chantage à l'emploi petite Ryanair. Sur le thème.
Rappelons, c'est-à-dire on baisse les salaires.
On vous baisse vos salaires, vous... sinon on ferme.
Bah, enfin, sauf que les pilotes ont accepté.
Pardon.
Les pilotes français ont accepté. Pour vous, c'est un chantage inacceptable.
Je ne crois pas que les pilotes français aient accepté. Hein. Je ne suis pas sûr d'avoir lu la même chose que vous. Mais en l'occurrence, le faire sans concertation, sans dialogue social, ce n'est pas la bonne méthode.
Mais donc, c'est-à-dire quoi ? Vous dites aux entreprises, ne rentrez pas dans ce
système. Je dis aux entreprises, ouvrez le dialogue. Mais n'envoyez pas un courrier comme ça a été fait, de manière unilatérale, en disant, en gros, baissez vos salaires, sinon on ferme. Il faut mettre les choses sur la table. Évidemment, le secteur aérien, tout le monde peut comprendre que le secteur aérien va avoir de grosses difficultés. Donc il faut le mettre sur la table, et après, il faut trouver le bon équilibre.
Guillaume Roquette.
Si on fait le bilan de cette crise sanitaire, le gouvernement parle de 800 000 suppressions d'emplois à venir. On dit que 30% des commerçants et des artisans risqueraient de ne pas passer l'année. Est-ce que c'est aussi grave que ça ?
Le pire est jamais certain. Vous savez, moi je suis entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se lève le matin avec l'envie d'entreprendre et que les choses aillent bien. Donc, je suis pas tout à fait à l'aise avec un discours trop... pessimiste, j'ai pas envie de dire défaitiste parce que ça va pas jusque là. Oui, cette crise est grave, mais au fond, elle est très différente de tout ce qu'on a connu. Il y avait un économiste, je sais plus lequel d'ailleurs, qui a finalement avoué, je trouvais ça assez honnête, en disant on est devant un trou noir. Et moi j'aborde cette crise avec beaucoup d'humilité parce que on est face à quelque chose qu'on n'a jamais connu, notre génération, même dans l'histoire de l'économie moderne, c'est-à-dire les gouvernements dans le monde entier d'ailleurs, enfin en tout cas le monde occidental, ont ralenti l'économie. Donc on ne sait pas comment ça va repartir. Il y a bien sûr des secteurs qui vont être durablement atteints, l'aéro, etc. Mais le pire est jamais certain et on a des signaux micro, et il faut être très prudent, qui sont très positifs. J'en cite deux. Parce que c'est beaucoup la psychologie. Hein. C'est la création d'entreprises. Le mois de mai, c'est reparti. À la fois les micro-entreprises, donc ce qu'on appelait les auto-entrepreneurs, et les entreprises à salariés, plus 50%. Et puis, il y a les concessions automobiles. Depuis le 2 juin, les ventes explosent.
C'est la prime, qui marche à fond.
Il y a la prime qui marche à fond. Mais c'est un signe de confiance dans l'économie.
Vous dites que c'est très psychologique, l'économie. Justement, quand vous entendez nos politiques dire « un effondrement nous guette », Premier ministre qui le dit, ça va être 1929. Est-ce que vous dites attention aux mots ? Est-ce que vous craignez ce climat anxiogène et que ça empêche une forme de dynamisme économique ?
En tout cas, ce ne sont pas les mots que j'emploie.
Vous n'aimez pas ce mot quand Édouard Philippe dit effondrement, écroulement...
Chacun a les vocabulaires qu'il choisit. Moi, je suis mon rôle. Vous avez dit patron des patrons tout à l'heure. Je n'aime pas cette expression. Moi, je suis porte-parole des patrons. C'est toujours difficile, entre la restauration, l'aéronautique, etc. Et mon rôle à moi, je pense, c'est de donner le moral à ces patrons. Alors, et pour donner le moral, je vois plutôt le verre à moitié plein. Ou en tout cas, les signes que le verre peut se re-remplir pour être plus prudent, pour répondre à la question de Guillaume Roquette, que les mauvaises nouvelles. Et puis, juste un mot, cette comparaison avec la crise de 1929 me paraît pas bonne. Parce qu'en 1929, on est dans une crise, pardon de le dire, classique du capitalisme, excès de spéculation dans un endroit dans le monde, aux États-Unis, écroulement du système financier. J'allais dire, on connaît ce modèle. Il n'est pas bon, mais on connaît ce modèle. Tandis que là, on est face, à quelque chose qu'on ne connaît pas.
Est-ce qu'on a trop fait peur et du coup, c'est d'autant plus difficile de sortir de la crise.
Je sais pas répondre à cette question. Oui. Ça paraît peut-être, c'est trop tôt pour y répondre. Et je vous dis, j'aborde cette crise avec humilité parce que je ne sais pas comment on va sortir. Mais en tout cas, je pense que mon job, c'est bénévole, mais mon engagement plutôt, c'est de voir là où ça fonctionne. De redonner le moral. Pardon, vous citiez, Guillaume, je crois, Roquette citait le 30% des restaurateurs qui ont failli. Ouais. Moi, je ne veux pas tenir ce langage. Vous imaginez, quand vous êtes restaurateur, que vous êtes fermé, que vous attendez ce soir qu'on vous laisserait ouvrir, que vous êtes battu toute votre vie, c'est l'affaire de votre vie, vous n'avez pas envie d'entendre
ça. Mais c'est Bercy qui en parle. Et Bercy dit aussi, Bruno Le Maire, qui est à la tête du ministère de l'économie, dit qu'il craint 800 000 suppressions d'emplois. Est-ce que c'est un chiffre, Geoffroy Roubaix, que vous reprenez à votre compte? Ou est-ce que vous dites, on verra bien, ça peut être moins, et ça peut être plus?
Malheureusement, ça peut être plus.
Mais
ça peut être aussi moins, et ça dépend un peu de nous. Ça dépend.
Donc, alors, vous n'aimez pas ces prédictions chiffrées là.
Non, parce qu'elles sont quelquefois autoréalisatrices. L'économie, vous savez, l'économie de marché, c'est l'économie de la confiance. J'insiste 10 secondes sur l'automobile parce que c'est important. Quand vous achetez une automobile, aujourd'hui, c'est un acte de confiance. En général, 70% est pris à crédit, crédit à la consommation. Et donc, ça veut dire... Et vous pouvez attendre de changer votre voiture. Enfin, on peut la faire rouler. Enfin, il y a quelques cas, évidemment, où elle ne roule plus. Mais enfin, donc, c'est un acte de foi, j'ai envie de dire, dans le lendemain. Et ce sont des signaux positifs. Alors, il ne faut pas être naïf. Bien sûr que la crise est très, très grave. Bien sûr qu'il y a des secteurs qui vont mettre du temps à s'en remettre. Bien sûr qu'il y a des secteurs qui vont... Il y a une dimension, pardon, d'être pédant un peu Schumpeterien. Il y a des secteurs qui vont être obligés de se réinventer, voire disparaître. C'est sûr, évidemment. Mais il faut aussi donner... entre guillemets, le moral aux entrepreneurs.
Et quand est-ce qu'on saura si c'est aussi grave que ce qu'on craint? Est-ce qu'on dit beaucoup qu'au mois de septembre, ce sera l'heure de vérité, parce que s'il doit y avoir des plans sociaux massifs, c'est à ce moment-là qu'ils seront annoncés?
Là aussi, hein, pardon, je ne vais pas faire ça pendant tout le grand jury, mais j'ai du mal à vous répondre. Moi, interrogé il y a un mois, j'aurais été certainement beaucoup moins optimiste, parce qu'il n'y avait pas ces signaux-là. Et peut-être que septembre va être septembre noir. Enfin, je sais que l'expression appartient à d'autres, mais il peut y avoir effectivement des plans sociaux dans les grands secteurs qui vont redonner une perspective pessimiste. Donc je pense qu'on apprend en marchant. Les économistes avec lesquels moi je dialogue régulièrement, je suis quand même très frappé de voir des opinions divergentes, d'abord entre eux, mais surtout d'une période à l'autre. Donc, écoutez, il faut apprendre en marchant. Je pense qu'il faut être très adaptable et agile.
Est-ce que vous trouvez que nos politiques font preuve d'un peu moins d'humilité que vous quand il s'agit de faire des prédictions et...
Je sens que vous avez envie que je dise du mal des politiques.
Non, mais parce que je sens que votre discours est très différent du leur.
Non, mais je suis... Chacun
et que
son
finalement,
moi,
ils ne connaissent pas forcément les réalités de terrain que vous maîtrisez
davantage. Je crois que chacun dans son rôle, si vous voulez. Moi, je suis syndicaliste. Je revendique ce terme, syndicaliste patronal, certes, mais syndicaliste. Donc, je suis là pour défendre mes adhérents, mais aussi pour les animer, pour les faire, pour les mettre dans un esprit de conquête. Pas facile en ce moment. Hein. Mmh. C'est évidemment la période la plus difficile. Les politiques, ils ont un rôle beaucoup plus large. Et moi, je ne suis pas de ceux qui, j'allais dire, ont envie de cracher dans la... Enfin, ce n'est pas dans la soupe, mais c'est un rôle difficile. Tout le monde leur tape dessus, quel que soit d'ailleurs leur bord. Je ne suis pas là pour les critiquer. Chacun son vocabulaire, chacun son rôle dans l'effort collectif. En quelque
sorte. Alors, l'effort collectif est passé notamment par le chômage partiel, Amélie Carouer.
Oui, la secrétaire d'État à l'économie, Agnès Pannier-Runacher, a évoqué la baisse de la prise en charge du chômage partiel à partir du 1er juillet. Avec des entreprises qui paieraient un petit peu plus, des salariés qui peut-être gagneraient un tout petit peu moins. Si on résume, vous pensez qu'il faut que chacun fasse sa part du chemin, mais jusqu'où faut-il aller pour les entreprises comme pour les salariés?
Bon, la première chose à dire, c'est que on a nationalisé une partie des salaires et que ça ne peut pas durer éternellement. Et donc, en discuter me paraît légitime. Mais il faut discuter sur des chiffres exacts. Et là où j'ai une petite difficulté, c'est qu'on a parlé jusqu'à 13 millions de salariés en chômage partiel. Mmh. Ça n'est pas exact. Pourquoi ? 13 millions, c'était la somme des demandes des entreprises. Mais qu'est-ce qu'ont fait les entreprises ? Elles ont demandé, entre guillemets, le maximum. Mmh. Et puis après, au fur et à mesure de la reprise de l'activité, elles ont mis au chômage partiel beaucoup moins de monde.
Combien en a-t-il eu alors ?
Alors justement, c'est ce qu'on essaie de savoir avec Mme Pénicaud.
Et vous n'y arrivez pas.
Non, mais elle n'y arrive pas non plus. Pourquoi ? Parce que toutes les demandes, par exemple, même les demandes du mois de mars, n'ont pas été encore totalement remplies. Première chose. Et deuxième chose, on comptait un salarié en chômage partiel une journée par mois comme un. C'est-à-dire que le chômage partiel n'était pas compté, ce qu'on appelle en équivalent temps plein. Et donc, si vous voulez un chiffre...
7-8 millions de personnes.
Non, c'est moins que ça. Je pense que c'est moins que ça. Aujourd'hui, au mois de juin, je pense qu'on sortira à moins que ça.
C'est-à-dire, c'est quoi votre estimation ? 5 millions,
dites-vous ? Oui, autour de 5-6 millions. Bon, c'est énorme. Mmh. Donc, évidemment, ça ne peut pas durer.
Et pour répondre... Vous nous dites, parce que le gouvernement a beaucoup communiqué sur le fait d'avoir aidé plus de 12 millions de personnes à maintenir leur emploi.
Non, mais le gouvernement avait les chiffres. Les chiffres des demandes. Et évidemment, c'est les seuls chiffres qu'il avait. Donc, il communiquait sur les chiffres qu'il avait. Donc, ce n'est pas une polémique sur les chiffres.
Pas de la com.
Non, c'est écoutez, c'est comme vous voulez. Mais ce sont les chiffres qu'on avait. Et effectivement, moi, j'ai bien vu, en discutant avec des patrons, parce qu'effectivement, l'avantage d'être président du MEDEF, c'est qu'on a un peu les doigts dans la prise. Donc, on parle toute la journée à des centaines de patrons. Mais qu'est-ce que fait un patron quand il débarque, enfin, quand il voit le dispositif en mars-avril ? il prend le maximum de précautions. Il ne sait pas ce qu'il y a devant. Alors, je n'ai pas répondu à votre question, quand même, parce que... Oui, non, mais je n'avais pas oublié, vous inquiétez pas.
On s'en était rendu compte.
Oui, je sais que...
Vous allez nous dire.
Vous inquiétez pas, je vais répondre. Donc, oui, il faut probablement en discuter, mais nous, on a deux barrières, je peux parler de lignes rouges, mais oui, lignes rouges, si vous voulez, ça fait bien dans une émission. Deux lignes rouges.
C'est la couleur de RTL, donc ça nous...
Voilà. La première, c'est qu'on vient de changer le dispositif au 1er juin, donc on ne va pas rechanger au 1er juillet. Laissons, entre guillemets, cette nouvelle système de déremboursement, puisqu'il y a une espèce de reste à charge pour les entreprises, au 1er juillet. Donc laissons ça jusqu'à la rentrée. Premier point. Deuxième point, oui, il y a une discussion pour s'approcher du système allemand, puisqu'en fait, tout ça s'est inspiré, alors je vais faire mon pédant, du Kurzarbeit allemand, qui effectivement rembourse moins les entreprises et indemnise un peu moins les salariés. Mais faisons-le dans la concertation et avec les vrais chiffres, parce qu'il y a une affaire de coût. Pourquoi le gouvernement veut bouger ? Il veut bouger parce que ça coûte de l'argent. Donc ayons les vrais chiffres. Ayons les chiffres de juin, de juillet. Et la meilleure protection de l'emploi, ce n'est pas le chômage partiel, c'est de faire repartir. Parce que si on déconfine plus vite, pour reboucler sur ce que je disais, eh ben, y aura évidemment moins de chômage partiel, moins de demandes, moins de coûts, et on pourra probablement mieux indemniser. Le risque dans tout ça, si on va trop vite ou si on dérembourse trop fort, c'est le chômage tout court.
Alors, mais dans votre esprit, on continue jusqu'à quand ? Vous dites, en septembre, ça s'arrête le chômage partiel ?
Non, ça ne peut pas s'arrêter. Non, je pense qu'il ne faut pas que ça s'arrête. D'ailleurs, pardon, le chômage partiel, il existait avant, mais il était très peu utilisé. Non, il faut mettre en place, pour une période assez longue, un système proche des Allemands. Alors, assez longue, je ne sais pas, ça revient à votre question de tout à l'heure, combien de temps ? Voilà, je ne sais pas. Et vous savez qu'il y a une autre discussion en parallèle sur un deuxième dispositif. Je ne sais pas si c'est votre question suivante.
Bah
je ne
vais
pas faire les questions, les réponses.
Vous faites les transitions.
Non, mais je ne veux pas. C'est plus pratique. Hein. C'est mieux. Hein.
Alors, le système ARM qui
ça
propose...
Ça a suscité beaucoup d'émotions.
Ouais. Donc, on pèse...
Allez-y, Maurice.
Non, mais donc l'idée, c'est que si les entreprises ont moins de travail à donner à leurs salariés... Le temps de travail baisse, mais le salaire est maintenu parce que c'est l'État qui compense. Et donc, ça coûte moins cher aux entreprises. C'est une bonne idée, ça ?
Alors déjà, je fais une petite, petite incise. C'est une mauvaise idée de l'appeler ARM. Bon, mais enfin, bon, on est grand spécialiste
bon,
de trop. Voilà. Bon, c'est quoi l'idée ? C'est de dire, il y a des secteurs, probablement des secteurs industriels, industrie lourde, qui savent que durablement, pendant 12, 24 mois, il y aura une baisse structurelle de la demande. Quand vous êtes sous-traitant d'Airbus, qui a annoncé qu'il allait produire 50% d'avions en moins sur les prochains mois, vous savez que forcément, puisque vous avez que deux clients possibles, Airbus et Boeing, vous ne pouvez pas aller chercher d'autres clients. Et donc là, l'idée, c'est une alternative, non pas au chômage partiel traditionnel, entre guillemets, dont on vient de parler, mais au PSE, c'est-à-dire au plan de licenciement.
Plan de sauvegarde de l'emploi,
au licenciement.
Pour dire les choses clairement.
Et donc, c'est de dire, dans cette usine-là, j'ai 20% de charges en moins pendant 6 mois, 8 mois.
De clients en moins.
De clients en moins, de demandes en moins. Donc, je m'engage à garder tout le monde. Et l'intérêt de l'entreprise est là aussi, parce qu'on garde les compétences, des gens formés dans l'industrie, c'est très important. Et en échange, il n'y aura pas de licenciement. Et là, la question qui se pose, c'est que si... il y a 20% de, entre guillemets, de capacité de production en trop, 20% de temps de travail en moins, qui paye la différence ? Et donc c'est ce partage entre l'État et l'entreprise qu'il faut discuter.
Mais sauf que la CFDT, Laurent Berger, avec qui vous dialoguez, je le disais, estime qu'on ne peut pas baisser les salaires et que ça lui paraît contre-productif, justement. À ce moment-là, qu'est-ce que vous lui répondez ? Pour la consommation, notamment ?
Non, mais globalement, si on pouvait, un, ne pas baisser les salaires, deux, les augmenter, on en parlera peut-être, on le ferait, parce qu'évidemment, ça contribue à la relance de la consommation. Mais là, le sujet, c'est, et c'est pour ça qu'il faut vraiment le faire entreprise par entreprise dans le dialogue, c'est PSE, pardon, plan de licenciement, et là, il n'y a plus de salaire, ou une baisse de salaire, et c'est la dose d'effort qu'on va demander aux salariés, à l'entreprise et à l'État qu'il faut discuter pour que la répartition soit juste.
Les salariés doivent s'attendre à ne pas avoir d'augmentation de salaire en 2021 dans les entreprises, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Alors, je peux pas généraliser. Si vous êtes salarié, je sais pas moi, de Google, qui s'est plutôt renforcé pendant la crise, la question n'est pas la même que si vous êtes dans un sous-traitant aéronautique. Je rappelle quand même que les fameuses NAO, donc les augmentations de salaire de 2020,
annuelles.
Celles faites en 2020 pour l'année 2019 ont été assez fortes, plus de 2%. Donc on sort d'une période où le pouvoir d'achat a fortement augmenté. Il y a eu en 2019 la prime défiscalisée, 2,7 milliards. Bon, on n'aura pas je crois qu'on peut le dire, ce type d'augmentation...
On n'aura pas, pas 2% en 2021.
Non, sauf si l'économie se redresse à toute vitesse, parce que bah, chacun va essayer de garder son cash, de trouver le moyen. Le sujet va être l'emploi. Le sujet va être l'emploi.
Mais je ne comprends pas très bien. Vous nous dites, s'il y a une baisse d'activité, il faut que les salariés, peut-être, soient prêts à faire un petit effort de baisse de rémunération. Mais c'est justement ça que proposait Ryanair, non? Alors que vous dites que vous êtes contre.
Ryanair, c'était unilatéral. Donc, il n'y avait pas d'effort de l'entreprise et c'était sans dialogue. C'est pour ça que je suis contre la méthode.
Je précise quand même, la section Ryanair du SNPL a décidé de coopérer à la mise en place d'un accord de performance collective en attendant des jours meilleurs et assure avoir obtenu en échange un engagement de Ryanair de ne procéder à aucun licenciement.
SNPL, donc, ce sont les pilotes de ligne.
Tout à fait. Donc, l'accord est en voie d'aboutir.
Bon, mais en tout cas, la méthode unilatérale ne me paraît pas la bonne.
Il faut signer un accord avec les syndicats.
Non, il faut d'abord avoir un diagnostic commun. Moi, je suis un adepte du diagnostic partagé et, au fond, d'une forme de transparence qu'on n'a pas toujours en entreprise sur la situation économique. Plus on dit la vérité aux gens sur la situation de l'entreprise, quand ça va et qu'on peut partager la richesse, ou quand ça ne va pas et qu'il faut essayer de préserver l'emploi, plus le dialogue est fructueux. Encore une fois, hein, je le dis parce que je trouve qu'on... Enfin, je ne veux pas dire les médias ne l'ont pas assez dit, ils ne vont pas accuser... Mais cette période a été une période de dialogue social intense dans les entreprises. Intense. Mm-hmm.
Amélie Carouer.
Est-ce que vous estimez que les salaires sont déjà élevés en France, en réalité? Et l'autre sujet, on va faire deux questions en une, c'est est-ce qu'il ne faut pas réduire les écarts?
Il y en a une qui est très philosophique, mais la première est... Bon, non, les salaires nets, le salaire médian est à 1800 euros, pas dire que c'est des salaires élevés. Le coût du travail, notamment quand on monte et que les charges augmentent, lui, est élevé quand on le compare. Alors, je ne compare pas au Vietnam ou à des pays émergents à faible coût. Quand on le compare avec nos voisins, il reste un différentiel. Plutôt d'ailleurs sur les salaires au-dessus de 2000 euros qu'en dessous, puisque vous savez, il y a une baisse des charges sur les bas de salaire. Et alors, je vois bien la demande, notamment, puisque c'est un peu le sens de votre question, j'imagine, sur ce qu'on a appelé les premiers tranchés, c'est-à-dire les gens qui sont payés... premier de cordée, premier de tranchée. Enfin, j'ai retenu l'expression. Au premier de corvée, apparemment.
Oui, retenu, oui.
Mais la difficulté, là, elle est très simple. Hein, c'est que donc, c'est des gens qui sont souvent payés proches du SMIC, disons SMIC ou un peu plus, dans des modèles qui sont des modèles très low cost. Quand vous êtes agent de nettoyage à la Défense, l'appel d'offres, ou dans un hôpital public, l'appel d'offres, il est uniquement sur le prix.
Ça, c'est le constat. Mais qu'est-ce qu'il faut faire du coup?
Je pense qu'il faut essayer de sortir petit à petit, y compris dans les appels d'offres publics, je me permets de le dire, d'une logique totalement low cost sur des métiers où le salaire, enfin des filières où le salaire compte énormément. Agents de sécurité, nettoyage, donc toutes ces professions qu'on continue à travailler sont des professions où le coût de la prestation, c'est 90% de salaire, 80% de salaire. Et donc c'est là où il faut arriver à trouver une solution. Sur les écarts salariaux.
Oui.
Parce que là, c'est une question philosophique. Donc
vous savez que la France Insoumise dit de 1 à 20, ça serait très bien, par exemple.
Alors, Henry Ford, pardon, alors c'est Henry Ford, je ne vais pas me tromper, de Ford, disait 1 à 40. Bon. On commence par le foot? Non, mais...
Ah bah, dites-nous, est-ce que...
Ce que je veux dire,
Est-ce que c'est eux qui doivent montrer l'exemple? Est-ce que ce sont les patrons qui doivent montrer l'exemple?
Je ne sais pas répondre à cette question, parce que ce que je constate, c'est qu'il y a des entreprises où les écarts salariaux sont beaucoup plus élevés que ça, et où ça pose aucun problème, parce que le patron, est reconnu, sa compétence est reconnue, et il y a d'autres cas où ça pose problème. Mais au final, c'est le rôle de l'impôt. C'est pas le rôle, des actionnaires. C'est le rôle de l'impôt, et on parlera de l'impôt.
On va en parler dans la seconde partie, notamment peut-être d'une baisse de la TVA, mais également on parlera de discrimination à l'embauche. On se retrouve dans quelques minutes après une pause.
Ces derniers mois, il a su tout faire. Instituteur, fabricant de cabanes en drap pour sa fille. Lui, c'est Richard. Richard Pente, artisan charpentier qui retrouve ses clients au volant de son Citroën Jumpy avec porte latérale coulissante main libre.
Citroën Jumpy, le savoir tout faire. En ce moment, à partir de 229 euros par mois sans apport, avec 3 premiers loyers à 0 euros, maintenance comprise. Citroën.
Crédit bail 60 mois, 50 000 km, offre réservée aux professionnels, valable jusqu'au 30 juin, sous réserve d'acceptation crédit par, détails sur citroën.fr, équipement selon version.
La paire. Ça fait 2 mois qu'on se voit H24, et au début t'étais l'appart parfait, mais là je découvre tes défauts. Four en panne, salle de bain démodée, mais jusqu'au 22 juin chez la paire, il y a 150 euros offerts tous les 1000 euros d'achat sur les cuisines et la menuiserie, et jusqu'à 25% de réduction sur la salle de bain. On pourrait recommencer? Tu veux bien faire un effort sur le parquet?
La paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie.
Conditions sur l'APER.fr.
Un message du président du réseau d'aide à domicile, ADAP.
Les personnes dépendantes à domicile traversent un moment difficile. Partout en France, les équipes ADAP prennent les précautions nécessaires pour assurer la toilette, les courses, les repas. Merci pour vos nombreux messages de soutien qui les encouragent. Vous pouvez compter sur leur engagement et leur vigilance.
Retrouvez le réseau ADAP sur ADAP.fr.
Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault ?
Dans la vie, il y a des moments à ne pas rater. En juin, profitez d'offres exceptionnelles comme nouvelle Renault Clio à partir de 99 euros par mois, prime à la conversion de 3000 euros déduite, avec EasyPack, entretien, garantie, assistance, inclus pendant 4 ans. Mais pour en profiter, c'est maintenant.
Pour nouvelle Clio Life SE 65, 40 000 km avec un premier loyer de 3 000 euros ramené à 0 euros après déduction de la prime à la conversion, sous condition de reprise et d'éligibilité à la prime jusqu'au 30 juin. Si Accordiac, voir Renault.fr.
RTL, il est 12h30. Les infos, Aude Vernuccio.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Allons-y, chaque jour compte. L'appel de Geoffroy Roux de Bézieux a accéléré la reprise du travail. 5500 accords ont été signés d'après lui. Plus vite on déconfinera, plus vite on sauvera l'emploi, déclare le patron du MEDEF. Invité du grand jury RTL LCI Le Figaro, Emmanuel Macron doit s'exprimer ce soir lors d'une allocution. Édition spéciale sur RTL de 20h à 21h. Le patron du MEDEF dénonce par ailleurs le chantage de Ryanair, la compagnie aérienne demande à ses employés de baisser leur salaire, sinon il y aura des licenciements à hauteur de 30% des effectifs. Et puis en plein Ségur de la santé, les soignants descendent à nouveau dans la rue. Ils réclament plus de moyens, une hausse des salaires, appellent à manifester mardi à Caen, Bordeaux, Perpignan ou encore Toulon et devant le ministère de la Santé à Paris en début d'après-midi. Dans un instant, la suite du grand jury sur RTL avec le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. RTL, il est midi 31.
Philippe Poupon, c'est un grand navigateur. Et dans la vie, il ne peut pas se passer de ses aides auditives. Jusqu'à présent, il n'en avait qu'une seule paire. Ce qui n'est pas très prudent en cas de problème, vous savez. Alors pour lui, comme pour tout le monde, j'offre une deuxième paire d'aides auditives pour 1 euro de plus. Et maintenant, il navigue en toute tranquillité.
Chin Chin Audio, pour l'achat d'une paire d'appareils auditifs, bénéficiez d'une deuxième paire pour 1 euro de plus. Rendez-vous sur alainflelou-acousticien.fr. Valable jusqu'au 31 décembre 2020, voire conditions en magasin, dispositif public LCE. Lire attentivement la notice, demandez conseil à votre audioprothésiste.
Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault ?
Dans la vie, il y a des moments à ne pas rater. En juin, profitez d'offres exceptionnelles comme Renault Twingo à partir de 69 euros par mois. Prime à la conversion de 3000 euros déduite avec EasyPack, entretien, garantie, assistance inclus pendant 4 ans. Mais pour en profiter, c'est maintenant.
Pour Twingo Life SE 65 LLD sur 49 mois, 40 000 km avec un premier loyer de 3000 euros ramené à 0 euros après déduction de la prime à la conversion, sous condition de reprise et d'éligibilité à la prime jusqu'au 30 juin. Si Accordiac, voir Renault.fr.
Bonjour, c'est Ophélie Meunier. Ce soir, vous allez découvrir l'incroyable histoire de Français partis faire un tour du monde en croisière. Alors que la planète est confinée à cause du coronavirus, à bord, personne n'est malade. Restaurant, soirée, la fête a continué jusqu'au bout du voyage. Croisière autour du monde, l'incroyable destin d'un paquebot en pleine épidémie, épisode 1, c'est ce soir dans Zone Interdite à 21h05 sur M6.
Intermarché vous propose d'écouter le cadeau du mois. Eh oui, c'est le temps des copains chez Intermarché. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a plus de 3 millions d'euros à gagner en bons d'achat grâce à votre ticket de caisse. De quoi inviter les copains le mardi, les copains des copains le jeudi et les copains des copains des copains le samedi. Et c'est seulement dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 12 juillet, bons d'achat d'une valeur de 1, 2, 3 ou 50 euros. Jeux également disponibles sur le drive à partir de 30 euros d'achat. Modalité sur intermarché.com.
Jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Amélie Carouer de TF1 LCI et Guillaume Roquette du Figaro qui vous pose la première question de cette seconde partie.
Oui, vous nous avez dit avant la pause que c'était à l'État par l'impôt de corriger d'éventuelles inégalités de salaire trop importantes. Ça veut dire que vous voulez qu'on augmente l'ISF ?
Non, la France, c'est le pays, je crois, avec le Danemark, qui a le plus fort taux d'imposition, toutes catégories confondues, particuliers et entreprises. Donc je crois qu'on ne peut pas, il n'y a pas la place pour augmenter les impôts. Mais quand on regarde les écarts de revenus en France, c'est très intéressant, on est aussi celui, puisqu'on a le taux d'impôt le plus élevé, qui corrige les inégalités de revenus. Et vous savez, le fameux coefficient de Gini, je ne sais pas si vous
voyez ce que
c'est.
Par la redistribution.
Par la redistribution, c'est l'écart entre les 10% les plus riches, les 10% les moins riches. C'est celui qui se réduit le plus en France à cause ou grâce à l'impôt. Alors après, c'est un débat de société. Je pense qu'on a atteint le plafond des impôts. On est à un taux de prélèvement qui est très, très élevé. Et sortir de cette crise avec des impôts supplémentaires pour les particuliers comme pour les entreprises serait la mauvaise solution. On a d'ailleurs essayé en partie en 2010-2011, puis 2012-2013, et ça a amplifié la difficulté à sortir de la crise.
Mais même sous la forme d'une contribution exceptionnelle, ce que certains appellent la taxe Jean Valjean.
Oui, j'ai vu ça.
Vous trouvez ça complètement illégitime?
Je crois qu'on confond en France, quand on parle de fiscalité, morale et efficacité. La fiscalité, c'est un outil d'efficacité qui permet de redistribuer. Or, on arrive à un niveau d'impôt où, on le sait bien, quand on monte à un certain niveau, que ce soit sur le patrimoine ou sur les revenus, bah, les gens partent, les gens trouvent des stratégies d'évitement. Donc on n'est pas sur le bon débat. Après, il y a la morale, mais je pense qu'en France, le niveau d'inégalité est moins élevé qu'ailleurs. Regardez les États-Unis, regardez plein de pays autour de nous. On n'est pas du tout dans le même rapport d'inégalité.
C'est pas ce que disent les classes moyennes, par exemple, en France, qui disent qu'elles ont été les grandes perdantes depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, par exemple.
Je parle de comparaison internationale. Après, il y a l'évolution depuis 3 ans ou 4 ans qui est une
autre discussion. Est-ce que vous acceptez cette critique-là, que les classes moyennes sont toujours les perdantes?
Alors, c'est presque un autre débat. Elles sont perdantes parce qu'elles n'ont pas accès aux aides et elles sont perdantes parce qu'elles commencent à payer l'impôt. Puisque vous savez qu'à peu près 50% des foyers français payent l'impôt sur les revenus. Donc oui, il y a un problème de classe moyenne, mais qui est de nature différente sur le fait de savoir s'il faut augmenter les impôts en France, qui était la question de Guillaume Roquette.
Amélie Carouer.
Sur la question de la relance, d'une manière générale, on parle beaucoup de consommation, de pouvoir d'achat. Pourquoi ne pas faire comme en Allemagne, baisser la TVA, même temporairement, pour aider à la consommation?
Alors, il faut les deux. Il faut une relance sur l'offre. L'offre, c'est la compétitivité des entreprises. Et il faut une relance par la demande qui a démarré avec les mesures de type automobile. Le problème qu'on a, il est double en France. La première, c'est qu'on est en déficit commercial massif. Donc si on baisse la TVA, le risque, c'est de faire une augmentation très forte des importations qui ne bénéficiera pas à l'emploi en France. Et puis, on a un autre. Vous allez peut-être me poser la question. On n'a pas les mêmes marges de manœuvre que les Allemands. Les Allemands entrent dans cette crise avec 60% de dette, 60% sur le PIB. Nous, on part avec 100%. Ça fait quand même une très grosse différence.
Donc, ça veut dire que les propositions comme celle du patron de La République En Marche, Stanislas Guérini, une sorte de chèque relance de 400 euros, ça vous paraît malvenu?
Pas tout à fait la même chose. Baisser la TVA, un impact beaucoup plus massif sur les finances publiques. Nous, on a proposé une petite alternative qui est l'éco-chèque.
Oui.
Ça existe en Belgique. On voit bien que face
pour
à
acheter bio.
Pour acheter des produits plus écologiques. Pourquoi? Parce que face à la transition écologique, pas raconter d'histoire. Il y a d'un côté un très fort sentiment de la population d'aller vers cette transition, mais de l'autre, que ça soit pour les entreprises ou pour les ménages, un problème financier. On l'a vu avec la taxe carbone. Et là, le système, c'est un chèque qui n'est que sur des produits labellisés, mais ça peut être une machine à laver qui consomme moins d'énergie ou moins d'eau. Et deux, c'est un chèque qui contribue à un achat. Ça fait sortir de l'épargne des livrets A.
Mais c'est encore l'État qui fait le chèque.
C'est encore l'État qui fait le chèque. Alors vous allez me poser la question, mais où est-ce que ça s'arrête? Et c'est pour ça que moi, je souhaite, je l'ai demandé au ministre de l'Économie, qu'on ait une vision d'ensemble de ces plans de relance. Parce que là, on est dans une logique où, j'allais dire, toutes les semaines, il y a un plan de relance sectoriel.
C'est-à-dire, vous voulez un plan de relance global de combien, Geoffroy? C'est 130 milliards en Allemagne.
Mais attention aux chiffres allemands, parce que, additionne des choux et des carottes, des garanties, qui ne sont pas de la dépense, des vraies mesures de dépense. Donc, il faut qu'on ait un plan massif.
Et tout de suite aussi.
Rapidement.
Est-ce qu'il faut pas attendre? Est-ce que le gouvernement doit le dévoiler en septembre? Est-ce que c'est trop tard, septembre?
Ce qui est trop tard, c'est s'il est dévoilé en septembre pour démarrer en janvier. Parce que là, on aura pris un retard irrémédiable. Si c'est une affaire de l'annoncer en juillet ou en septembre pour le démarrage à la rentrée, là, c'est différent. Mais effectivement, je pense qu'il y a un côté urgence. Il y a deux choses qui manquent aujourd'hui. Il y a une vision d'ensemble, c'est-à-dire il y a une série de plans qui sont plutôt bien faits, mais on ne voit pas globalement ce que ça fait. Et pourquoi je demande une vision d'ensemble? Parce que c'est la confiance des entrepreneurs qui vont se dire, ça y est, on a le paquet. Et combien
mais
ça
vous
coûte ?
Vous préférez que ce soit maintenant que le gouvernement l'annonce là au mois de juin ?
Je ne suis pas à une semaine près.
Oui, mais pas en aussi, septembre.
En tout cas, il faut que ça démarre à la rentrée. Donc l'annonce, c'est ça. Ce qui compte au fond, c'est quand l'argent va arriver. Ce n'est pas tellement quand il est annoncé.
Exactement, vous savez que c'est pour ça. C'est pour ça que l'État ne l'annonce pas maintenant. Il attend de savoir s'il aura l'argent de l'Europe ou pas.
Je peux comprendre ce point-là. On n'est pas, je l'ai dit, dans la même situation que les Allemands. Et on a besoin probablement de l'argent européen qui lui-même met du temps à se mettre en place puisque vous avez ce problème de pays dit frugaux, radins, frugaux,
pays du Nord.
Économes, enfin comme vous voulez, qui traînent un peu les pieds. Je signale juste quand même, c'est intéressant, que les patronats de ces pays, notamment le patronat hollandais avec qui j'ai discuté la semaine dernière, n'est pas du tout sur la même ligne. Parce qu'eux se rendent compte qu'ils ne peuvent pas être prospères dans une Europe qui ne l'est pas.
Et bon, Europe et travail, PSA. Finalement, PSA ne va pas utiliser des salariés polonais, ces salariés polonais, ça compte de le dire, mais bien les intérimaires français. Vous comprenez la décision de PSA de faire machine arrière après demande du gouvernement ?
Je comprends l'émotion que ça a pu susciter et l'incompréhension des intermédiaires en question. Mais c'est un sujet complexe, parce que c'est un sujet de solidarité européenne. Parce que ces salariés-là, ils sont en sous-activité en Pologne, et le risque, c'est qu'il y ait un plan de licenciement en Pologne. Donc, finalement, c'est le même sujet que celui de la solidarité européenne. Et on peut me dire, j'entends l'argument, les Polonais ne sont pas très solidaires parce que, je sais pas quoi, ils achètent des hélicoptères américains, pas des hélicoptères français. À un moment, si chacun se replie sur son égoïsme national, on n'y arrivera
alors,
pas.
Alors, en gros, vous nous dites que sur le fond, c'est la bonne chose à faire, mais c'était juste pas le bon moment.
Oui, je le dirais peut-être pas comme ça. Sur le fond, avoir une solidarité européenne... Payer, je le signale quand même, parce que c'est pas du dumping au sens, je fais venir des gens payer beaucoup moins cher. Donc,
payer au salaire français.
Payer au salaire français en payant les charges sociales en France. On n'est pas, vous voyez, dans ce qu'il y a eu avec certains systèmes de travailleurs détachés. La question doit se poser, parce qu'on essaie de faire une Europe qui soit à la fois solidaire et aussi, pardon, j'insiste là-dessus, harmonisée sur le plan fiscal et social. D'ailleurs, l'idée du SMIC européen, qui serait un SMIC en pourcentage du salaire médian, c'est une idée auquel il faut réfléchir, parce que ça contribue à ça.
Mais juste une petite question encore. C'est ça l'avenir du salarié français qui travaille dans un groupe européen ? Il doit se préparer à devoir être envoyé dans des
Europes partout en Europe ? Faut pas exagérer, de
manière... Vous voyez bien les syndicats qui parlent de nomades de l'industrie.
Oui, écoutez, je ne suis pas sûr que prendre 120, je crois que c'est ça le chiffre, salariés de PSA comme exemple... du modèle futur, ça me paraît quand même un tout petit peu exagéré. Là, il s'agissait simplement de... Il y a une usine en sous-activité. On serait en France, en fait. Il y aurait une usine en sous-activité à Montbéliard et une usine en suractivité à Oudin. On déplacerait les gens pour 3 mois. Personne, ça ne poserait pas de problème. Là, c'est parce qu'il y a des frontières entre les deux. Et des frontières qu'on aimerait peut-être pas abolir, mais au moins rendre moins difficile.
Puisqu'on parle de frontières, Guillaume Roquette.
Oui, est-ce que si on met de côté l'Union européenne, où a priori les travailleurs circulent librement, est-ce que dans la perspective d'une hausse forte du chômage, il faudrait... diminuer l'immigration extra-européenne pour réserver aux Français davantage les emplois dans une crise ?
Bon, c'est une question compliquée parce qu'elle, elle sort du simple rôle du syndicaliste. Elle renvoie aussi à des questions citoyennes. Ce qui est sûr, c'est que la question de la démographie est devant nous. Moi, quand je suis né, il y avait 2,5 milliards d'habitants dans la planète. Il y en aura 9, je crois, en 2040, je ne sais plus exactement les chiffres. Donc cette émigration, notamment africaine, vers l'Europe, elle ne va pas arrêter avec la crise, elle va se continuer. Comment on traite ce problème ? Certainement en ne l'ignorant pas, certainement en investissant massivement en Afrique. Je ne crois pas que la préférence nationale, pour reprendre l'expression bien connue, soit la solution. Il y a des métiers, il faut le dire, où on ne trouve pas, aujourd'hui, alors peut-être demain ça sera différent, de salariés français.
Donc les quotas économiques, c'est pas votre truc à vous.
Les quotas économiques, si, c'est peut-être une solution. Oui. Au contraire, je dis justement que pour le moment, on ne trouve pas de salariés français, ou en tout cas installés en France, hein, parce qu'il n'y a pas que des Français, pour faire certains métiers dans certaines conditions. Et il n'y a pas que les saisonniers, bien sûr. Mais pardon, je voudrais juste rebondir, si vous m'autorisez, posez moi-même une question. Non, mais sur ce qu'a dit Guillaume Roquette. La question quand même de la souveraineté européenne, de la manière dont l'Europe doit se défendre dans cette guerre des modèles entre la Chine et les États-Unis est posée. L'immigration en fait partie, mais ce n'est pas la seule. aux frontières de l'Europe, il y a eu une forme de naïveté pendant très longtemps. Et je pense que ce temps-là est révolu. D'ailleurs, on voit bien, quand le commissaire Thierry Breton commence à sermonner, je vais prendre un mot politiquement correct, les gens de Facebook, on voit bien qu'il y a un changement d'état d'esprit. Moi, en arrivant au MEDEF, il y a 2 ans, j'ai créé un comité de souveraineté économique. À l'époque, ce mot-là, pouvait poser question au sein du patronat.
Vous assumeriez le mot
on a changé de paradigme.
Vous assumeriez le mot protectionnisme?
Non, pas le mot protectionnisme. Pourquoi? Parce que le protectionnisme, il est nécessairement défensif. Moi, j'assume le mot de concurrence.
On se défend, non, contre la Chine?
Oui, mais je pense qu'il faut être à la fois défensif et offensif. J'assume le mot de concurrence loyale. Je vais donner un exemple très simple. On demande aux entreprises françaises et européennes de décarboner très vite. Et on a raison. Mais décarboner, ça coûte plus cher. Produire décarboné, dans 90% des cas, ça coûte plus cher. C'est pour ça qu'on soutient, et c'est pas souvent que le MEDEF soutient une taxe, la taxe carbone aux frontières. La taxe carbone aux frontières, c'est quoi? C'est pas du protectionnisme. C'est de dire, l'acier turc, l'acier, enfin, je vais pas citer de nom, mais l'acier qui vient en dehors des frontières, qui est produit avec plus de carbone, il doit être taxé pour qu'il soit à égalité de concurrence avec l'acier européen qui, lui, produit moins de carbone. Donc, ce n'est pas pour jouer sur les mots. C'est une vision différente de l'économie que celle qui a prévalu dans les 30 dernières années.
On sent que vous nourrissez une préoccupation écologique et en même temps, en pleine crise sanitaire, vous avez demandé un moratoire sur la mise en place de mesures environnementales, notamment dans la lutte contre le gaspillage et le recyclage, dans un courrier adressé au ministère de l'Environnement. Ça semble totalement contradictoire.
Pas du tout. Ce courrier demandait 6 mois de délai, puisqu'il était application au 1er janvier, sur 12 décrets, sur 200 de la loi économie circulaire. Pourquoi? Parce qu'on pensait que les entreprises ne seraient pas prêtes. Je vous donne un exemple simple. Il y a une responsabilité élargie du producteur sur la restauration. Je ne sais pas de quel état sera la restauration au mois de décembre. On en a parlé tout à l'heure. Mais leur donner 6 mois de délai pour appliquer.
Donc vous renouvelez cette demande de moratoire?
Non, parce qu'on en a discuté avec la ministre. Et elle nous a demandé d'accélérer. Et on va essayer d'accélérer. Par contre, ça me permet de dire une chose. Ne nous trompons pas. Cette crise a aussi un impact très fort sur les modèles de recyclage. Moi, j'étais la semaine dernière dans une usine de recyclage avec le pétrole à $40. Tout le modèle du plastique recyclé, par exemple, est remis en cause. L'écologie, la transition écologique, c'est pas juste des slogans, la relance verte, verdir l'économie. C'est des business models, c'est des chiffres, c'est comment on fait. Et nous, les entreprises, on a un rôle à jouer, mais il faut rentrer, faut soulever le capot pour comprendre comment ça marche.
Vous avez vu qu'il y a des patrons à Lyon qui ont lancé une pétition anonymement pour dire attention à l'élection des écologistes à Lyon. C'est leur rôle de faire ça? Il y a un danger vert?
Est-ce qu'il y a un danger vert? Non, il y a parfois un danger d'une écologie qui ne rentre pas dans la réalité pratique. C'est-à-dire, encore une fois, nous, on est d'abord citoyens avant d'être patron ou syndicaliste, et on est aussi conscients, tous des enfants à la maison en plus, que il faut aller dans le verdissement de l'économie. Mais la question qu'on pose, c'est comment on fait et qui en paye le prix? Et vous avez vu, je prends un exemple très simple, qu'on a dit aux Français, consommer des fruits et légumes français pendant... ça coûte 10% plus cher. Et tout le monde dit, ah non, mais ça coûte 10% plus cher. Donc, comment on fait? Qui en paye le prix? Comment on finance ces investissements, notamment dans les PME? C'est ça le vrai débat qu'on doit avoir.
C'est l'heure de la question en plus.
Le grand jury, la question en plus.
Dominique Sopo, président de SOS Racisme. Il y a quelque temps, le CV anonyme qui devait servir à lutter contre les discriminations raciales a été abandonné. Depuis, on peut dire qu'il n'y a jamais eu de réelles contraintes qui aient été imposées aux entreprises pour lutter contre ce fléau. Évidemment, on peut toujours penser qu'il est important de faire évoluer les consciences, c'est vrai. Mais on sait bien que contre ce fléau, précisément, les contraintes sont un passage nécessaire. Quel type de contraintes êtes-vous prêt à accepter au niveau des entreprises pour faire en sorte que chacun des enfants dans cette République soit traité à égale dignité, à l'embauche et dans l'évolution de carrière?
Sur le fond, on le sent de malaise,
bien sûr,
social montant dans la jeunesse et dans les banlieues également.
Alors, je répondrai sur le CV anonyme, mais peut-être plus largement. Il y a forcément, comme dans toute la société, dans les entreprises, des phénomènes de discrimination qui existent. Je pense que c'est une minorité. Et je pense quand même que l'entreprise, c'est un lieu d'intégration. C'est un lieu d'intégration qui permet souvent, mais pas toujours, de l'ascenseur social, notamment d'ailleurs dans les métiers ou dans les secteurs où il n'y a pas de diplôme qui est demandé. En termes d'employeur, le seul employeur qui recrute sans diplôme aujourd'hui, ça n'est pas la fonction publique, ça n'est pas les concours de l'État, c'est l'employeur privé. Et vous avez des tas de cas, alors grande distribution est un bon exemple, 40% des patrons d'hypermarché ont commencé au plus bas niveau dans l'hypermarché. Mais il y a des phénomènes. Moi, je suis favorable à ce qu'on organise de manière régulière, mais en coordination, des systèmes de testing, pas simplement sur l'origine, parce qu'il faut qu'on soit capable de se mesurer. Mais pas comme ça a été fait il y a maintenant, je crois, 6 mois ou quelques mois par le gouvernement, où on envoyait des candidatures spontanées, non pas aux services de recrutement, mais à des cadres ou à des gens sur LinkedIn. Donc on jugeait non pas l'entreprise, on jugeait certains salariés. Or, comme toujours, il y a des stéréotypes. Et je dirais une chose, je pense que dans l'entreprise, le problème, c'est la lutte contre le stéréotype. Et c'est ça qui est important.
On avance avec le contexte global aussi des manifestations de ces dernières semaines. Est-ce qu'il faut, oui ou non, des statistiques ethniques? La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, remet le débat sur la table.
Vous savez que c'est possible en entreprise, depuis quelques années, à condition qu'il y ait un accord des salariés. Moi, je ne suis pas très à l'aise. Ça a été essayé, ça n'a jamais pris. Je ne suis pas très à l'aise avec ça. Pourquoi? Parce que ethnique, religieuse, orientation sexuelle, où est-ce qu'on s'arrête et où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on met des quotas derrière? Est-ce qu'on oblige à avoir tel pourcentage? Je ne crois pas. Par contre, je pense qu'on a collectivement, grandes entreprises d'abord évidemment, un gros effort à faire, parce qu'on est, on peut être, on ne l'est pas assez, mais on peut être une machine à intégrer.
Mais visiblement insuffisamment, c'est ce que montre le gouvernement.
Encore pas assez vite. Oui, mais enfin,
dans la presse ce matin, dit qu'il faut renforcer le testing et faire le name and shame, c'est-à-dire désigner les entreprises qui ne sont pas vertueuses.
Mais à condition que les méthodes soient des méthodes scientifiques, pas comme ça a été fait. Et puis quand même, je me permets de le dire, mais d'accord, mais faites-le pour l'État aussi. Parce que ce pays est formidable, c'est toujours vers les entrepreneurs privés qu'on se tourne. Alors les CDD à répétition sont condamnables, mais ils sont aussi condamnables quand ça se fait dans
les mairies. Dans l'administration,
bien sûr.
Gouvernement, par exemple, vous dites...
Je ne sais pas s'il y a des CDD au gouvernement.
Non, mais veut dire sur la représentativité, vous trouvez qu'au gouvernement,
ça c'est un autre sujet. Ce que je veux dire, c'est... je répondais sur le testing. Oui, il faut qu'on fasse des efforts sur la discrimination selon les origines dans l'entreprise. J'en suis convaincu, et je suis convaincu qu'on a un rôle à jouer. Mais on ne peut pas être les seuls, et il faut que ce qui est appliqué aux entreprises privées soit appliqué aux administrations dans leur recrutement. C'est ça que je veux dire. C'est pas ça qui va sauver les banlieues. C'est dans les concours de la fonction publique, par exemple.
Guillaume Roquette.
Et je me fais le porte-parole de Dominique Sopo, tout arrive. Vous êtes pour ou contre, alors, le CV anonyme?
Écoutez, on a essayé, puisque c'est une recommandation de 2004 de Claude Bébéard. Et ça n'a jamais pris. Je ne crois pas que le rendre obligatoire soit une bonne idée, parce que comme on l'a mis en volontaire, que plein d'entreprises ont essayé, enfin grandes entreprises, et qu'elles sont revenues en arrière, c'est probablement pas la bonne idée. Mais par contre, le problème posé par Dominique Sopo, enfin derrière le fait d'intégrer, d'être capable de donner à venir, j'ajoute un point, on parlait de création d'entreprises, c'est aussi facteur d'intégration. Nous, on soutient beaucoup d'associations, les Déterminés, nos quartiers ont du talent, d'autres, parce qu'il y a un potentiel d'énergie, de création d'entreprises qui est très fort. Et puis, dernier élément quand même, n'oublions pas que la discrimination, elle peut se faire tous azimuts. Les gilets jaunes, c'est aussi le reflet d'une forme de discrimination d'une autre nature.
Dernière question.
Les symboles sont forts en ce moment. Est-ce que vous seriez prêt à poser un genou à terre par solidarité, émotion?
Écoutez, ça dépend des circonstances. Si j'avais été aux États-Unis, certainement. Moi, je ne crois pas que la France soit dans la même situation. C'est ce qui me gêne un tout petit peu, si vous voulez. C'est-à-dire, je ne crois pas que la France... Là, c'est plus une réponse de citoyen que syndicaliste. Je ne crois pas que la France soit un pays raciste. Vous savez, juste sur les quotas, les statistiques techniques, quel est le pays qui fait le plus de quotas, le plus de statistiques techniques? C'est les États-Unis. Et c'est là, malheureusement, où il y a des tensions très fortes. Je ne suis pas sûr que ça soit la bonne solution.
Question express.
Le grand jury. Question express.
Geoffroy Roux-de-Bézieux, pour ou contre le maintien de la réforme des retraites?
Difficile de répondre express. Il y a un problème de financement qui manifestement va se... Donc il faut faire quelque chose. Est-ce qu'il faut remettre en l'état ce grand système universel? Nous, on n'était pas des grands fanats de ce système universel. Donc
on enlève l'âge pivot, par exemple, et on garde le reste?
Non, surtout pas. Enfin, c'est pas forcément l'âge pivot. Il faut une mesure d'âge. Accélération de la réforme Touraine. Il faut une mesure d'âge, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Mais je ne suis pas... Enfin, nous ne sommes pas au MEDEF depuis toujours un grand fanat du système universel. On voulait un système indépendant, un système fonction publique, un système entreprise privée. C'est déjà pas mal.
Pour ou contre le retour des emplois aidés? Stanislas Guérini, ici même, en réclamait la semaine dernière.
Bah, les emplois aidés, pardon, le chômage partiel, c'est le plus grand système d'emplois aidés qui est jamais inventé. Donc on est plutôt en train de les, entre guillemets, de les retirer.
Pour ou contre un RSA pour les jeunes de moins de 25 ans?
Je ne poserai pas la question comme ça, je vais vous répondre non. Mais par contre, le sujet du revenu universel, qui est ressurgi, on ne l'a jamais vraiment traité au MEDEF, je dis les choses très librement. À titre personnel, je pense que ça m'intéresse d'y réfléchir, mais ça ne peut pas être, voyez, ça peut pas être balancé comme ça. Enfin, attention... Comment dire, à tirer des leçons de cette crise trop vite alors qu'on est dedans.
Enfin, pour ou contre la suppression de l'ENA?
La réforme, oui, la suppression, c'est tellement symbolique. Je pense que ça ne change rien à la société française.
Question nette.
Le grand jury. Question
nette. Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour Geoffroy Roux-de-Bézieux. Alors, les internautes ont été surpris de voir que vous n'aviez pas respecté le confinement. Vous avez fait plusieurs allers-retours entre Paris et Le Croisic en Loire-Atlantique. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'exemplarité à respecter quand on
J'ai
est patron du
MEDEF? J'ai fait un aller-retour pour une réunion à Paris. C'est un motif professionnel. Donc,
pour vous, ça se justifiait?
J'avais un motif professionnel de revenir à Paris.
Et pour les vacances d'été qui arrivent, est-ce que vous-même, vous allez rester en France?
Ah oui, évidemment.
Et vous encouragez les Français à passer leurs vacances d'été en France?
Écoutez, j'encourage les Français, oui, à passer leurs vacances et à essayer de reprendre confiance et à réserver les hôtels.
Alors, autre sujet, sur Twitter, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, pointe du doigt les méthodes d'Amazon. Et pour lui, il faut dire aux citoyens clairement qu'il y a d'autres moyens de consommer que de commander en ligne. Est-ce que vous le rejoignez sur ce point?
Moi, je voudrais juste dire, il y a eu deux affaires qui ont défrayé la chronique. Amazon et Renault Sandwheel. Mais certes, ça a défrayé la chronique, mais il y a des dizaines de milliers d'entreprises où ça s'est bien passé. Donc, on peut passer nuit et jour sur le sujet Amazon. Après, je pense que ça n'aura pas fait une bonne publicité auprès des consommateurs. Ça, c'est sûr. Il n'y a
ça
pas besoin de Laurent Berger.
Question suivante, Marie.
Oui, alors le patron de Renault, donc Jean-Dominique Sénard, qui est invité à votre place il y a quelques semaines. Pendant la crise du coronavirus, il a baissé les salaires des dirigeants de Renault, dont le sien, de 25% seulement pour le deuxième trimestre. Est-ce que vous encouragez cette idée et est-ce qu'il faut que les grands patrons d'entreprises françaises le fassent aussi?
En tout cas, quand ils demandent des sacrifices ou des efforts à la collectivité, ça me paraît assez légitime. D'ailleurs, ça s'est fait spontanément, sans menace de l'État, sans oucase de qui que ce soit. C'est l'effort collectif.
Et fait de dividendes, ça a été le cas. Est-ce que vous pensez aussi en 2021, il n'y a pas eu de dividendes versés
Pour
Renault. Est-ce que ça doit être le cas aussi en 2021 sur 2020?
Ça va dépendre de la situation.
Pas forcément.
Mais tout dépend de la situation et des efforts qui sont demandés. Le dividende, c'est un effort de l'actionnaire. Donc, vous voyez, c'est l'ensemble de la collectif et des efforts.
Dernière question.
Alors, vous parliez tout à l'heure des questions sur les violences policières et donc le racisme en France. Marion Maréchal s'est exprimée dans une vidéo sur ce sujet. Elle déclare ne pas avoir à s'excuser d'être blanche. Ça entraîne un gros débat sur les réseaux sociaux. Il y a un an, vous l'aviez invitée à l'université du MEDEF. Finalement, il y avait eu des menaces de boycott. Vous aviez reculé. Est-ce que vous comptez la réinviter?
Non, cette invitation, elle devait débattre avec quelqu'un de la France insoumise. Moi, je continue à penser que exclure du débat des gens qui ont des idées et qu'on ne partage pas est une mauvaise idée. Maintenant, vu la polémique, on ne va pas recommencer cette année.
Merci Geoffroy Roux-de-Bézieux d'avoir été notre invité. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous les trois. On se retrouve la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous.